Bonjour à tous, vous écoutez Take a Brief, le moment que vous vous accordez pour mieux comprendre le droit. On est quatre étudiantes et notre but est de vulgariser des notions de droit un peu compliquées et les illustrer grâce à l'actualité, le tout sur un support pratique à écouter partout et tout le temps.
Moi c'est Justine et je suis avec Clara, Marine et Juliette. Aujourd'hui, on est quatre à prendre la parole. On est ravis d'accueillir Maître Dosé, avocate et auteure de l'ouvrage Les Victoires de Daesh, qui intervient dans de nombreux dossiers liés au rapatriement des femmes et des enfants de djihadistes. Le rapatriement de ces femmes et de ces enfants suscite beaucoup de questions, mais également beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, Maître Dosé nous explique tout.
Mais avant de laisser la place à son intervention, bref retour sur ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe en Syrie. Alors comme vous le savez certainement, on qualifie de djihadistes les personnes qui désirent se rendre en Syrie ou qui se sont rendues en Syrie pour y combattre auprès de l'État islamique. Ce mot djihadiste vient tout simplement du mot arabe djihad qui signifie guerre sainte, auquel on a tout simplement ajouté un suffixe. En fait, lorsque les derniers bastions de l'État islamique ont été réduits à néant au cours notamment de l'année 2018 avec la chute de Raqqa, puis en 2019 avec la chute de Baghouz, les Kurdes qui ont combattu contre l'État islamique ont récupéré un certain nombre de ses membres qu'ils ont parqués dans différents camps en Syrie, en attendant justement de savoir quoi faire de ces personnes qui doivent, pour la plupart, être judiciarisées, mais qui sont des ressortissants, de pays occidentaux, notamment les femmes djihadistes et leurs enfants. Mais alors, la situation actuelle des femmes et des enfants djihadistes en Syrie, c'est quoi plus précisément ? Eh bien, au 1er janvier 2020, on avait une soixantaine d'hommes, une centaine de femmes et près de 300 enfants français qui étaient toujours détenus dans des camps ou dans des prisons du nord-est syrien par les Kurdes. Les autorités françaises sont, comme vous le savez, très réticentes à leur rapatriement et la France a choisi de rapatrier au compte-gouttes. Au total, ce sont seulement 35 enfants de djihadistes français qui ont été ramenés de Syrie depuis 2019. Mais alors, le rapatriement en droit français, c'est quoi ? Est-ce que l'État français a une réelle obligation de rapatriement, finalement ?
Alors, très brièvement, en France, il existe trois grandes catégories de rapatriement. Mais le rapatriement qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rapatriement des indigents. Donc, plus précisément, le rapatriement des indigents civils résidant à l'étranger n'est pas un droit, mais un moyen dont disposent les postes diplomatiques et consulaires pour répondre à des situations sociales qui peuvent être délicates. Donc ça, c'est aux frais de l'État français, et du coup, ça se réalise dans la limite du budget existant, et c'est un moyen qui s'adresse principalement aux Français les plus démunis, qui font face à de grandes difficultés, et pour lesquels il n'existe aucune solution durable, en tout cas là où ils sont localisés, et qui pourraient trouver en France une situation meilleure que celle qu'ils connaissent à l'étranger. Ainsi, en ce qui concerne plus précisément le rapatriement des djihadistes, c'est un peu compliqué à vrai dire, mais en soi, l'obligation de l'État de se soucier ou même de protéger les femmes et les enfants français de djihadistes qui sont retenus dans ces camps à l'étranger n'emporte pas un droit à les rapatrier en France. Et on va aborder tout cela tout de suite avec Maître Dosé.
Maître Dosé, bonjour. Vous êtes avocate pénaliste et défendez de nombreuses familles françaises dont les enfants, les petits-enfants sont détenus dans les camps syriens. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage, donc Les Victoires de Daesh, dans lequel vous revenez justement sur la justice antiterroriste et sur le rapatriement de ces djihadistes en France. Merci de répondre à quelques-unes de nos questions aujourd'hui, on est vraiment ravis d'être avec vous. Donc premièrement, on sait que la question de la défense des personnes parties en Syrie ou désireuses de partir en Syrie peut vraiment faire débat dans l'opinion publique. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à travailler pour la défense des familles djihadistes dont vous vous demandez le rapatriement en France ?
Alors, d'abord, je crois que dans l'inconscient collectif, on songe souvent que l'avocat choisit ce qu'il défend. C'est pas vrai. Hein, ce sont les autres qui vous choisissent. Et à partir de là, on accepte ou pas de défendre. Moi, je défends aussi beaucoup de victimes d'attentats. Hein, je défends l'association des amis de Justine Dupont et Claude Verlon, les victimes de l'attentat de Karachi. Je défends aussi des victimes d'attentats. Après, j'ai été sollicitée par ces familles, oui, dont les filles et les petits-enfants sont détenus dans ces camps. Et c'était une évidence, au départ, pour moi, qu'il n'y avait pas besoin d'avocat. Je me souviens très bien de la première personne qui est venue ici, dans ce cabinet, il y a maintenant presque 3 ans, et qui m'a dit « Bon maître, ma fille et mes deux petits-enfants, ils ont 2 ans et 1 an, sont dans un camp en Nord Syrie entre les mains des Kurdes. J'ai besoin d'un avocat pour les faire rapatrier. Je dis, madame, vous n'allez pas payer un avocat pour ça. Vous écrivez au Quai d'Orsay, vous expliquez où ils sont, évidemment qu'ils vont être rapatriés. C'était pour moi une évidence. Et puis, 2 ans et demi plus tard, on en est là. Je ne pouvais pas soupçonner une chose pareille, puisque d'abord, juridiquement, ça ne tenait pas. Et puis, humainement, c'était pas le pays dans lequel j'étais née et dans lequel j'habite. Donc, voilà, en fait, ça, c'est l'histoire des avocats, c'est toujours ça. Ce sont des histoires qui se présentent à eux. Et puis ensuite, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Mais entre cette défense-là et puis la défense de ceux qui sont rentrés, qui ont fui l'État islamique ou qui ont voulu partir... Oui, j'aime beaucoup défendre ces personnes-là, mais pour quelque chose de très important. Moi, je ne suis pas là pour faire le procès de la procédure ou le procès de la justice antiterroriste. Je le fais dans les livres, je ne le fais pas avec eux. Avec eux, au contraire, j'essaye de les ramener à la Respublica. J'essaye de les ramener vers le pacte républicain. Si j'y arrive pas, je ne vais pas jusqu'au bout de la défense. Si je suis face à quelqu'un qui me manipule parce que finalement il se dit ça fait bien de prendre Marie Dosé, ça fait un peu humaniste dans l'anti-terrorisme, on n'ira pas jusqu'au bout ensemble. Mais par contre, je pense que l'avocat de la défense, il a cette possibilité parce que justement on est dans un rapport très ténu avec celui qu'on défend. Quand il est en prison notamment, il y a les parloirs, il y a l'intimité, on a cette possibilité de le ramener efficacement, même sur un pas, même sur un millimètre, c'est déjà ça. Donc voilà, c'est souvent un passage entre moi et le tribunal, et donc à partir de là aussi entre moi et une institution judiciaire qui fait partie de la République. Donc j'ai pas de difficulté à les défendre, puisque je les défends comme ça. Je les défends pas en disant la justice antiterroriste est vraiment inhumaine, on n'est quasiment plus dans la démocratie, et l'infraction d'association de malfaiteurs à caractère terroriste est une honte. Jamais. Ça, je peux l'écrire. À l'attention d'un public autre que ceux que je défends.
D'accord. Et justement, puisque vous assurez leur défense, vous êtes régulièrement en contact avec les femmes qui sont détenues dans les camps syriens. Que pouvez-vous nous dire donc, sur les conditions de détention là-bas et que risquent ces femmes, finalement, et ces enfants qui sont détenus dans les camps syriens?
Alors, leur situation est très renseignée maintenant. Il y a énormément de rapports qui ont été transmis aux autorités nationales et européennes sur leurs conditions de vie. Donc, en une année, en 2019, il y a plus de 350 enfants qui sont morts dans le seul camp à Lol, de faim, de froid et de maladie. D'abord, ces femmes et ces enfants sont arrivés dans ces camps dans un triste état. Hein. La plupart d'entre elles et la plupart d'entre eux venaient de Baghouz. Et Baghouz, c'est le dernier bastion de l'État islamique. Ils vivaient dans des trous. Beaucoup sont morts de faim à Baghouz. Et puis surtout sous les bombardements. Donc ils étaient déjà blessés, choqués, en état de choc évidemment, de sidération, et puis dans un triste état physique et psychologique. Donc en arrivant déjà dans ces camps, et là on est en janvier, février 2019, ces femmes et ces enfants étaient dans un état pitoyable. Et puis après, il y a eu les camps. Et les camps, c'est pas d'accès à des soins adaptés, la faim, le froid, les tentes, la boue. Et voilà, au bout de 2 ans et demi, on a affaire à des gamins dont les traumatismes n'ont pas été pris en considération, qui évidemment ne sont pas scolarisés, qui évidemment ne mangent pas à leur faim, qui ne sont pas vaccinés. Et puis plus le temps passe, plus les traumatismes s'ancrent et plus l'état de santé se détériore. Mais tout ça, ça n'est même pas contredit hein, par les autorités. Tout le monde le sait, ça a été renseigné objectivement. Et tout le monde l'atteste, que dans ces camps, on vit l'enfer, tout simplement.
Oui, justement, et au travers de votre réponse, on voit aujourd'hui qu'il y a une urgente nécessité d'agir, mais justement, quel est le principal frein au rapatriement des femmes et des enfants djihadistes en France aujourd'hui?
Mais en fait, le principal frein, il est dans la bassesse politique de ce refus. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a qu'un impératif humanitaire à rapatrier ses enfants et leur mère. D'abord, c'est pas l'histoire de la Syrie, c'est pas l'histoire de l'Irak, c'est notre histoire. Ces femmes, elles se sont radicalisées en France, elles sont nées en France, elles ont été dans les écoles de la République en France. Et à partir de là, c'est notre histoire de France. Je suis désolée, mais elles ne sont judiciarisées que dans un seul pays, la France. Elles font toutes l'objet d'un mandat d'arrêt international en France, rendu par un juge antiterroriste français, qui les attend depuis 2 ans et demi, 3 ans, et qui d'ailleurs, je parle du coordonnateur des juges antiterroristes français, appelle au rapatriement en disant « c'est une hérésie sécuritaire que les laisser là-bas. Et ils ont raison. Pourquoi ? Il n'y a pas que l'humanitaire, il y a le sécuritaire. Pourquoi ? Parce que ces femmes, en les laissant là-bas, on fabrique les attentats de demain. N'oublions pas quand même que ceux qui sont venus sur les terrasses en 2015, que ceux qui sont allés à l'hypercacher en 2015, ça venait de là-bas. Donc on est en train de faire n'importe quoi, si vous voulez, parce que d'abord, les Kurdes disent on ne peut pas les juger, elles s'évadent. Dans le meilleur des cas, elles s'évadent pour rejoindre la Turquie avec leurs gamins en espérant rentrer en France, tout va bien. Mais dans le pire des cas, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup, elles s'évadent pour rejoindre Idlib et donc Al-Qaïda ou Daesh. On est en train de repeupler l'État islamique. Pardon, mais c'est une réalité. Moi, vous savez, je me suis toujours un peu battue contre des gens comme M. Brizard, par exemple. Parce qu'on n'a pas la même vision du monde. Mais il dit la même chose que moi. Moi, je pense que d'abord, on doit sauver des enfants, que c'est un impératif humanitaire, que c'est avec l'état de droit qu'on se bat contre le terrorisme et avec rien d'autre, et qu'à force d'épouser hein, une forme d'obscurantisme ou en tout cas d'avoir peur de l'état de droit, eh bien, on se trompe de combat. Mais sur un volet sécuritaire, il faut qu'elles rentrent. Certaines sont extrêmement dangereuses, d'autres non, mais certaines le sont. Et c'est celles-là qu'il faut aller chercher en premier. Donc, il y a d'abord ça. Et puis après, il y a des enfants. Les deux tiers ont moins de 6 ans. Ces gamins n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à naître en Syrie, ils n'ont pas demandé à vivre en Syrie, ils n'ont pas demandé à être emmenés en Syrie. Vous savez, moi, j'ai des fois quand même des femmes là-bas qui ont été emmenées par leurs parents à 12 ans. Elles en ont 17 aujourd'hui. J'ai une gamine de 17 ans qui n'a pas eu le choix. En 6e, ses parents l'ont emmenée là-bas avec ses frères. Ils sont tous morts, ses frères, son père, sa mère. Elle est orpheline dans un camp, elle a 17 ans, on la rapatrie pas. Quelle crève. C'est l'histoire de... Et le vrai problème, je vais vous dire, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas demander à ces femmes d'adhérer au pacte républicain. On ne peut pas leur dire, mais vous savez, il faut aimer cette France quand même qui préfère voir crever ton gamin que de te voir rentrer. Non, mais ça ne va pas. Enfin, on crée de la radicalité. On crée de la défiance. Et on tisse du terrorisme sur mesure. Voilà ce qu'on est en train de faire. Quand il y a 2 ans et demi, à la chute de Baghouz, ces femmes sortent de Baghouz, il fallait les cueillir là, et toutes les ramener, toutes les incarcérer, toutes les judiciariser, placer les gamins, et ensuite on aurait fait un travail. Mais là, depuis 2 ans et demi, ce qu'elles constatent, c'est que ce pays préfère voir mourir leurs enfants que de les voir rentrer. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas en train de fabriquer les attentats de demain ? C'est quand même... Et c'est une évidence, et tout le monde le sait, et tout le monde le dit. Ce d'autant, encore une fois, faut qu'elles payent pour ce qu'elles ont fait. Bah oui, je suis d'accord, faut qu'elles payent pour ce qu'elles ont fait. Mais les Kurdes viennent de dire, on ne les jugera pas. On ne peut pas les juger. Le Kurdistan syrien, ça n'existe pas. On n'a pas de preuves contre elles. Ils ont même dit dans leur communiqué officiel de mars 2021, certaines sont des victimes de Daesh. Bah, je peux vous assurer qu'en France, ça ne va pas être ça. Hein. Donc, voilà, on fait n'importe quoi. C'est tout. Mais enfin, c'est pas on fait n'importe quoi, Emmanuel Macron fait n'importe quoi, parce que c'est lui qui prend cette décision-là et personne d'autre. Je sais, j'ai été reçue à l'idée 4 fois. Il n'y a que lui. On m'a dit arrêtez avec le Quai d'Orsay, c'est Emmanuel Macron qui prendra cette décision. Bon, bah, il prend la décision de laisser mourir des enfants, de laisser mourir des mères, mais surtout de repeupler en toute connaissance de cause l'État islamique, ou en tout cas Daesh, ou en tout cas Al-Qaïda, en Syrie. C'est parfait.
Donc, si la France accédait finalement donc, à vos demandes, comment devrait-on organiser le retour de ces ressortissants détenus dans les camps, en pratique et au niveau juridique?
Alors, d'abord, on fait croire que, mon Dieu, elles vont rentrer, on s'en sortira pas. Je signale qu'il y a déjà plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont rentrés de Syrie, parce qu'ils se sont évadés, parce qu'ils ont quitté l'État islamique, qui sont passés par la Turquie. Hein. Dès qu'on arrive en Turquie, il y a un protocole qui s'appelle le protocole Cazeneuve qui est mis en place, et ces femmes, ces hommes... Et leurs enfants rentrent en France. Donc on sait déjà quelles sont les prises en charge. Une fois arrivées en France, c'est très simple. Les femmes, elles sont mises en examen, placées en détention provisoire. Les enfants, ils sont placés en famille d'accueil avec l'aide sociale à l'enfance. Petit à petit, ils vont rencontrer leurs grands-parents, ils vont rencontrer leur famille, et puis ils vont voir leur mère en détention. Parce qu'il va falloir comprendre l'histoire, reconstruire l'histoire, expliquer pourquoi elle est en prison. Mais... il y a une chose que je voulais vous dire qui est très importante. Moi, je défends beaucoup de familles dont les enfants sont rentrés, je défends aussi des enfants qui sont rentrés. Et je vais même vous dire une chose, je défends des enfants qui sont rentrés sans leur mère. Parce qu'il y a des femmes qui n'en peuvent plus de voir leurs enfants mourir, et, ou en tout cas périr, et qui ont accepté que ces enfants rentrent sans elles. Eh bien, je peux vous assurer d'une chose, c'est terrible ce qui va nous arriver quand ces enfants auront 15 ans. D'abord, il faut comprendre que ces gamins, ils vivent 24 heures sur 24 avec leur mère depuis leur naissance. Ils sont dans une tente avec elle, et la seule marque affective, la seule marque d'humanité qui les entoure, ce sont leurs mamans. Il y a de la boue, la pluie, du froid, la faim, des bombes, des gardes kurdes, des armes autour d'eux. La seule humanité qui les entoure depuis toujours, c'est leur mère. Ils sont 24 heures sur 24 avec elle. Quand ces femmes s'évadent pour arriver en Turquie et arrivent en France avec les enfants, je ne vous dis pas la séparation à l'aéroport. La violence de la séparation à l'aéroport. C'est l'horreur. Mais 15 jours plus tard, l'enfant il va voir sa maman en prison, avec des éducateurs, avec des psychologues. Donc il la voit, il sait qu'elle va bien. C'est un parloir famille avec des jouets, on joue, maman elle sourit, et puis on va reprendre la voiture, tu la verras encore la semaine prochaine, et c'est accompagné avec des psychologues, bref, maman elle est là, elle est pas loin, on prend la voiture, on la voit. Et puis en attendant, je vais voir mes grands-parents, puis après je vais voir maman en prison avec les grands-parents, voilà. Quelque chose se reconstruit, mais là, je le vis, donc je le sais. Ces enfants, ils rentrent tout seuls en France. Ils sont passés en famille d'accueil. Et tous les matins, ils se lèvent avec l'image de leur mère dans la tente qui est peut-être en train de mourir là où eux-mêmes ont failli mourir pendant 2 ans. Mais vous vous rendez compte, l'horreur? Vous vous rendez compte? Parce qu'attention, ils n'ont plus jamais de nouvelles de leur mère. Ils n'entendent plus le son de leur voix, ils n'ont pas de nouvelles, ils n'ont pas de dessin, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. C'est-à-dire que ces enfants ne savent même pas si elle n'est pas morte, quoi. Mais qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer? Quelle est l'histoire de France de ces enfants? L'histoire de France de ces enfants, c'est mon père, il est mort sous les bombes de la coalition internationale ou alors il est en prison en Syrie. On n'en veut pas, on le laisse crever dans des mouroirs là-bas. Ma mère, elle a supplié la France pendant 2 ans et demi de me ramener avec elle. Ils nous ont laissé crever. Moi, il paraît que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont ramené et elle est en train de crever pour m'avoir sauvée. Mais on avait besoin de ça pour trouver des abrutis place de la République et faire ce qu'ils ont fait. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte dans 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur expliquer? Ça va être quoi la raison? C'est même pas une punition, c'est un bannissement, c'est pire que ça. Mais qu'est-ce que ces gamins vont penser de leur pays? Mais la haine, elle est évidente. Donc moi, voilà, on est sur un court-termiste, on est sur une élection présidentielle qui a lieu dans 1 an. Donc on se dit, on va tenir, encore 1 an. Elles finiront peut-être toutes par s'évader. Et puis, enfin, c'est le calcul politicien, pas politique, il est terrible. Vous savez, hein, je vais vous dire, hein, il y a plusieurs types d'hommes politiques. Il y a François Mitterrand qui, avant le premier ou le second tour, avant le premier tour, dernière question qu'on lui pose, monsieur François Mitterrand, vous nous confirmez sur la peine de mort. Le dernier sondage donne 74% des Français qui sont contre l'abolition de la peine de mort. Réponse de François Mitterrand, je vous confirme que je vais l'abolir, et puis je vous confirme que je vais gagner les élections. Il avait raison. On a été capable de faire ça, mais par contre, sauver des gamins, on n'est pas capable de ça. On parle, pardon, de 6 classes. Hein. On parle de moins de 200 enfants, c'est 6 classes. Tout ça pour 6 classes de maternelle. Hein. Faut quand même y aller. Hein. Bref.
Et donc, si ces femmes et ces hommes djihadistes rentrent en France, ils seront sûrement renvoyés en prison. Or, on sait, et l'opinion publique le dit, le risque de radicalisation en prison. Que diriez-vous à ceux qui pensent que ces individus constituent un risque de radicaliser d'autres personnes en prison? Et alors, comment on devrait organiser leur incarcération?
Alors, je vais vous dire une chose. À toutes ces personnes, je leur dis d'abord que la meilleure école de radicalisation, c'est les camps en Syrie. Ça a été la même chose en Irak. On est en train de refaire la même histoire entre nous, hein. Il n'y a pas de difficulté, c'est comme si on n'avait vraiment pas compris la leçon, quoi. Mais entre l'école de la radicalisation dans le camp Roj et dans le camp Alol et l'école de la radicalisation à Fleury-Mérogis, il n'y a pas photo, d'accord? Et je rappelle que les attentats sont partis de là-bas. Pas d'ici. Pas d'ici. Je rappelle aussi que tous ceux qui sont rentrés de Syrie, on en est à plusieurs centaines pour l'instant. Je suis désolée, il n'y en a pas un seul qui a essayé de commettre un attentat. Parce qu'il y en a des contrôles judiciaires, il y en a des fins de peine. Vous avez entendu parler de quelqu'un qui a commis un attentat en France ou tenté de commettre un attentat en France après avoir séjourné en Syrie, là ? Des femmes, je parle des femmes. Bon, donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, l'administration pénitentiaire, qui a raison d'ailleurs de pleurer sur son sort, et elle pleure sur son tort à juste titre, reprenez ses déclarations, explique que s'agissant de ces femmes, je parle de 80 femmes, hein, 80, il n'y avait aucune difficulté à les accueillir. C'est l'administration pénitentiaire qui le dit. Et elle n'est quand même pas connue pour ne pas pleurer sur son sort, je le répète. Elle dit, pas de difficulté. On vient de créer, de surcroît, s'agissant des femmes, des unités pour femmes radicalisées. Donc, je vais vous dire, la prison, c'est peut-être, et c'est une évidence, l'école de la délinquance. Mais c'est aussi là où on peut, quand on se donne les moyens de le faire, non pas déradicaliser, mais travailler à un désengagement. Moi, je connais un imam extraordinaire qui sauve les femmes de tout ça et qui travaille exclusivement en prison. Tout le monde a bien conscience qu'on a travaillé le désengagement n'importe comment. On a tâtonné pendant des années. Mais là, ça commence à être assez sérieux. Vous voyez, on arrête de désengager ou de déradicaliser avec l'atelier poterie. On va plutôt, effectivement, travailler sur le fait religieux. Et vous savez, ces femmes, qu'on le veuille ou non, elles ont énormément souffert. Sous l'État islamique, elles ont vécu un enfer. Très peu ont trouvé ça merveilleux. C'est absolument impossible. D'accord ? Elles se sont fait battre, elles se sont fait violer, on les a enfermées à la maison, elles ont fait les gosses, dès que le mari était mort, on les remariait. Maintenant, elles sont dans des camps depuis 2 ans. 90% d'entre elles, très franchement pour 90% d'entre elles, l'État islamique, c'est pas un idéal. Hein, d'accord ? Donc, il y a déjà ce boulot-là de fait, en tout cas. Et puis, pour le reste, je vois moi aussi le travail qui est fait en prison. Et je peux vous assurer qu'entre ça et le travail dans les camps, il y a un gouffre. Donc tout est perfectible. Je ne suis pas en train de vous dire que la déradicalisation ou le désengagement, c'est une science exacte. Il n'y a pas de science exacte. Il n'y a pas de scénario qui coche toutes les cases. Mais encore une fois, là, on a vraiment choisi le pire. On choisit le pire. Vraiment. Et puis il y a aussi autre chose. C'est que il va falloir qu'on se donne rendez-vous avec notre histoire. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'histoire judiciaire, c'est aussi l'histoire avec un H majuscule. Moi, vous savez, j'ai une jeune femme qui est rentrée de Syrie. Elle a passé 4 heures dans le bureau d'un juge d'instruction pour parler des yézidis. Elle a passé 3 heures à la DGSI pour expliquer qui exactement au sein de l'État islamique faisait quoi. Enfin, pardon, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui deviennent des éléments d'accusation pour ceux qui doivent être poursuivis. Donc, en réalité, ce sont des mines pour les renseignements. Elles aussi. Et donc pour notre histoire. Enfin, on va pas se dire, vous comprenez, en France, les prisons sont pas à la hauteur, donc laissons-les se radicaliser dans les camps où les attentats vont nécessairement arriver. Parce que c'est comme ça. Je rappelle quand même que les deux chefs de l'État islamique ont appelé les plus radicalisés à aller chercher ses enfants et ses femmes. Hein. À deux reprises. Ça va finir par se passer comme ça. Mais vous vous rendez compte ?
Et pour la première fois, en février de cette année, la Cour européenne des droits de l'homme, donc la CEDH, a accepté d'examiner la requête déposée contre la France pour son refus de rapatrier une famille de djihadistes. Qu'attendez-vous de la décision de la CEDH ?
Alors, l'audience devant la CEDH est fixée le 29 septembre en grande chambre. Donc il y a un enjeu considérable. Avant cette audience, nous avons d'abord eu une décision intéressante du Comité international des droits de l'enfant des Nations Unies, qui a jugé mes 25 plaintes recevables. Pourquoi elle est intéressante par rapport à la CEDH ? Parce que le Comité international des droits de l'enfant a considéré que la France avait juridiction. Le gouvernement français, pour l'instant, ce qui l'oppose, c'est on n'a pas juridiction. On n'a pas de pouvoir. On ne peut rien faire. Alors, ça ne fonctionne plus. C'est tout simplement pas possible parce que, d'abord, vous y allez. Vous choisissez les enfants que vous sauvez. Pour l'instant, vous en avez sauvé 35. Il en reste 200. Donc, toi, tu as le droit de vivre. Toi, par contre, tu crèves. C'est comme ça. Ça s'appelle le fait du prince. En tout cas, moi, j'appelle ça comme ça. Donc, ils sont tout à fait en capacité de rapatrier puisqu'ils l'ont déjà fait. Je rappelle quand même qu'une petite fille était en train de mourir et comme ce serait quand même très très embêtant là, à cette aune qu'une gamine meurt, on est allé la chercher en pleine crise sanitaire au moment du premier confinement alors qu'il n'y avait pas d'avion, que tout le monde était coincé, que ce soit en Syrie ou ici, pas de difficulté. On est allé chercher en hélicoptère, on l'a fait passer par l'Irak et hop, directement à l'hôpital pour l'opération. Donc voilà, la France n'a pas juridiction, elle fait ce qu'elle veut. Il y a un truc intéressant, j'aimerais savoir combien la France donne aux Kurdes pour garder ce que d'aucuns appellent nos poubelles. Combien on donne aux Kurdes de Syrie, là, sur le budget? Combien vous payez d'impôts pour que les Kurdes de Syrie gardent 200 enfants, 100 femmes et des prisonniers français? Mais parce que vous ne croyez pas qu'ils gardent tout ça gratuitement? Hein, ils en appellent au soutien de la communauté internationale. On a bien compris le soutien de la communauté internationale, mais ça nous coûte combien tout ça? Puis autre chose, je rappelle quand même, pardon, que les Kurdes de Syrie, du Rojava, on est bien au Rojava, c'est la branche armée syrienne du PKK. Donc combien est-ce que la France donne à la branche armée syrienne du PKK? Dans mon souvenir, le PKK, c'est une organisation terroriste. Hein, les familles qui envoient de l'argent dans les camps, pour pas que les petits-enfants meurent. Ça s'appelle l'état de nécessité. On les colle en garde à vue de temps en temps, mais on ne peut pas les poursuivre. Bah oui, c'est l'état de nécessité. Mais vous croyez quoi? Les Kurdes, vous savez combien ils prennent sur cet argent-là? Que les familles envoient depuis 2 ans et demi? 10%? 15%? Ben, la branche armée syrienne du PKK, elle est financée. Elle est financée par la France. C'est un financement du terrorisme. Indirect, quand c'est les familles qu'on ne peut pas poursuivre, et elles envoient de l'argent parce qu'elles n'ont pas de possibilité de faire autrement, puisqu'on les rapatrie pas, ou quand la France donne de l'argent aux Kurdes. Alors, je veux juste dire que véritablement, quel que soit le prisme avec lequel on regarde ce sujet, ça n'a strictement aucun sens que de ne pas les rapatrier. La France dit, nous n'avons pas juridiction, elle peut plus, elle n'y arrivera pas, ça n'est pas possible, elle fait ce qu'elle veut. Et elle l'a déjà prouvé. Et puis surtout, elle ne peut pas dire, vous comprenez, moi, je ne peux pas les rapatrier parce que ce n'est pas moi qui décide. Quand vous avez un communiqué des Kurdes du Rojava du mois de mars 2021 qui dit, vous les reprenez. Et vous arrêtez d'ailleurs de vouloir séparer les femmes des enfants. Vous les reprenez, on ne veut pas les juger, on ne peut pas les juger, on n'a pas de preuves contre elles. Nous appelons les pays à prendre leurs responsabilités et à rapatrier tout le monde. Et là, la France va dire, ben non, on ne peut pas le faire, on n'a pas juridiction, vous plaisantez. C'est fini tout ça. Les États-Unis ont rapatrié, les Russes ont rapatrié, le Kosovo a rapatrié, la Belgique a dit on rapatrie, la Suède a dit on rapatrie. Mais par contre, vous n'avez pas juridiction. Sauf pour un enfant que vous avez choisi comme ça. Voilà. Donc en fait, c'était important que le Comité international des droits de l'enfant valide la recevabilité sur la notion de juridiction. Maintenant, la CEDH va donc siéger le 29 septembre. Nous avons visé plusieurs dispositions. D'abord l'article 3, traitement inhumain et dégradant. Hein, on les expose directement à un risque de mort, les enfants et leurs mères. Ensuite, le protocole numéro 4, si je ne me trompe pas, qui interdit à un État membre de refuser l'accès à son territoire pour ses ressortissants. Et là, c'est quand même ce qu'il se passe. Et puis, effectivement, le droit à la vie privée pour ses grands-parents qui sont privés de voir leurs petits-enfants, etc., etc. Donc, l'enjeu, il est essentiellement sur la juridiction, mais moi, j'ai vraiment bel espoir. J'ai vraiment de l'espoir. Et ça sera, la décision sera rendue avant les élections. Donc, si véritablement on gagne, France condamnée sur l'article 3 pour laisser crever les enfants au Kurdistan syrien, si véritablement l'Élysée s'assoit sur une décision comme celle-là, ça va être un peu compliqué quand même. Mais vraiment, je vous assure que jamais j'aurais pensé qu'on arriverait jusque-là. Mais vraiment. Moi, vous savez, c'est personnel, mais je viens de Lorraine. Je raconte souvent ça parce que c'est très important. Le meilleur ami de mes parents, que je connais évidemment très bien, il est né, et il l'a su très longtemps après, dans un Lebensborn. Qu'est-ce que c'était? La Lorraine et l'Allemagne, c'est quand même une drôle d'histoire. Eh bien, en 1945, à la fin de la guerre, les Lorrains ont adopté des dizaines d'enfants qui étaient nés dans ces orphelinats ariens, nés, choisis pour améliorer la race arienne. Donc c'était des gamins en fait qui étaient souvent d'ailleurs issus de viol, hein, mais bon voilà, et qui étaient censés répondre à tous les critères de la race aryenne. Et ben les Lorrains, ils ont adopté ces gamins, c'est-à-dire qu'ils ont adopté les gamins de ceux qui avaient tué leur grand-père en 14-18, leur frère en 39-45, leur fils en 39-45. Ils ont adopté les enfants de l'ennemi. Et là, on n'arrive pas à rapatrier des gamins. Mais vous vous rendez compte de ce qui s'est passé sociétalement en 50 ans là ? C'est fou, quoi. C'est dingue. Hein ? Là, on parle d'enfants français.
Alors, pour notre dernière question, alors on sait que l'opinion publique est peu favorable à un rapatriement des femmes djihadistes, on l'a dit, on le redit, et c'est certainement peut-être ce qui pousse le gouvernement à ne pas justement aller dans cette direction. Alors, si vous aviez une dernière chose à dire à toutes les personnes qui sont contre le retour de ces personnes sur le sol français, par peur des conséquences, quelle serait-elle ?
Alors, je vais vous dire, je vais vous décevoir. D'abord, je pense qu'à force d'avoir peur de l'opinion publique, et à force de dire l'opinion publique est contre, on fabrique quelque chose qui n'existe pas. Moi, il y a 2 ans et demi, c'est vrai, quand je prenais la parole sur ce sujet, c'était très compliqué. Depuis 2 ans et demi, je n'ai que des messages d'encouragement. Donc, l'opinion publique, il ne faut pas non plus, à un moment donné, la figer dans ce qu'elle a pu émotionnellement ressentir et verbaliser de pire. L'opinion publique, elle bouge. Elle avance. Elle change. Et c'est d'abord le devoir des hommes politiques de la faire changer, plutôt que d'en devenir l'esclave. Donc, c'est vrai que j'irai pas sur RMC ou en grande gueule pour expliquer qu'il y a des gens qui, de toute façon, continueront à dire « Eh ben, c'est gosses qui crèvent !» Je m'adresse pas aux gens qui disent « c'est gosses qui crèvent ». Ça ne m'intéresse pas et ça n'a aucun intérêt en soi, en fait. Je pense, moi, que faire de la politique, ce n'est pas nécessairement convaincre ceux qui, de toute façon, ne seront jamais convaincus. C'est à un moment donné s'adresser à la raison et à la responsabilité. Tous les sachants, tous les experts, et certains contre lesquels je me bats depuis longtemps sur des questions notamment humanitaires, disent « Il faut rapatrier, on est en train de faire n'importe quoi. » Si ça ne suffit pas à un président de la République pour rapatrier, le danger ne vient pas de l'opinion publique, il vient de lui.
Maître Dosé, merci encore pour le temps que vous nous avez accordé.
Mais merci à vous.
Et pour vos réponses qui, on l'espère, permettront au plus grand nombre de mieux comprendre les enjeux liés à la question du rapatriement des femmes djihadistes et puis de leurs enfants qui se trouvent encore à ce jour en Syrie. Merci.
Je vous en prie.
Et c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode. On espère vous avoir donné toutes les clés de compréhension, un peu de droit, un peu d'actualité, un peu de technicité, le tout dans un format pratique à écouter partout et tout le temps. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à écouter nos précédents épisodes. Take a Brief est présent sur Facebook, Instagram et les plateformes de streaming. N'hésitez pas non plus à nous suggérer des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez en apprendre davantage. À bientôt sur Take a Brief.